Bonjour à tous, ici Aurélie pour RDIWA, à l'écoute sur le 107.5 FM et sur le site www.rdwa.fr. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de d'Histoire et de Contes, j'ai l'immense honneur d'accueillir l'équipe de lecteurs et lectrices de Trajet Spectacle qui vont nous offrir régulièrement des extraits d'auteurs qui viennent pour l'atelier Écrivain du Monde donc que Trajet Spectacle Peuple et Culture a mis en place depuis quelques années. Alors déjà, je tiens à vous saluer tous. Alors, on va commencer par Patrick, Daniel, Linette, Delphine et Christiane. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Patrick, si tu veux bien, nous allons présenter un petit peu cet auteur qui s'appelle Frank Pavlov. Et me semble-t-il, tu as préparé un petit speech à proposer à nos auditeurs.
Eh bien, oui, on va dire quelques mots sur Frank Pavlov. Merci. Donc, Frank Pavlov est un écrivain qui se définit comme écrivain de l'ailleurs. C'est déjà tout un programme entre exil intérieur et géographique, et qui rencontre dans une écriture poétique du monde des drames de l'humain et de la beauté, et même de la puissance de la nature, on peut dire. Il vit pas très loin d'ici, près de Gap, et il s'est fait connaître du grand public, notamment par une nouvelle qui est parue il y a déjà un certain nombre d'années, en 1998, Matin Brun, qui est paru aux éditions Chêne à l'époque et qui est toujours republié aujourd'hui puisqu'on en est à pratiquement 2 millions d'exemplaires de par le monde. Il a publié son premier roman en 1993, mais depuis, il a publié 25 ouvrages. Donc c'est un romancier chevronné, mais pas que romancier. Il écrit également des carnets de voyage, il écrit de la poésie, enfin il a écrit de la poésie. Et il est également, donc dans le domaine du roman, il a publié un certain nombre de romans jeunesse. Alors, ses derniers romans sont parus chez Albin Michel. On va en citer quelques-uns. Alors, Le Pont de Rade Mozitar, prix France Télévisions en 2005. La Chapelle des Apparences en 2007. Le Grand Exil en 2009, prix littéraire des grands espaces. Et L'Homme à la carrure d'ours en 2012. Et nous allons plutôt aborder ces deux derniers romans.
Donc, Le Grand Exil.
Et L'Homme à la carrure d'ours.
Parfait.
C'est quelqu'un qui s'inscrit dans le monde, donc son travail d'écrivain en tout cas est complètement imprégné de lieux les plus divers dans le monde, à travers à la fois une réalité, c'est-à-dire que ses romans sont situés géographiquement dans des lieux réels, on est dans la réalité d'un côté, et en même temps on est dans la fiction et le poétique, qui dans la manière de l'écrire et de raconter les histoires de ses romans. Frank Pavlov est né en 1940, donc ça lui donne déjà un long parcours de vie. Et il a fait plusieurs métiers, dont notamment celui d'agent de développement et de responsable de projets de développement dans différents pays dans le monde. Donc ils l'ont amené à voyager sur tous les continents. Et par ailleurs, c'est semble-t-il aussi un voyageur constant, donc il n'arrête pas d'aller vadrouiller en différents endroits, visiblement. Mais bon, ça fait partie de la discussion qu'on aura avec lui, parce qu'on n'en connaît pas les détails aujourd'hui.
Donc moi, je vous propose, chers auditeurs, d'attendre la suite des événements, mais toujours est-il, on va procéder à la lecture des extraits que vous avez sélectionnés, l'équipe de Trajet Spectacle. La première, visiblement, sera menée par Delphine et Christiane, un extrait du livre Le Grand Exil de Frank Pavlov.
La patronne vint lui servir d'office un quart de volaille grillée, garnie de patates sautées, et s'assit à ses côtés, torchon à l'épaule. Son visage cuivré, encadré de tresses noires, se fendait d'un fabuleux sourire aux dents d'ivoire. La première fois qu'elle lui avait adressé la parole, Lucia, entrée par hasard au polo, l'avait fixée si intensément que Dolores avait enlevé et replacé son dentier d'un geste malicieux. Elle ne le mettait qu'aux heures de pointe.
Comme on sort la nappe fleurie pour les invités.
Ce secret de femme les avait rapprochés. Dolores décapsula deux coca, envoya balader son homme qui râlait d'être seul au service, s'inquiéta des vacances de Marina, la belle héroïne de sa telenovela préférée, sosie de la jeune femme, disait-elle. Lucia laissait dire. Elle avait besoin d'un lieu populaire pour servir de base anonyme à son projet. Elle s'inventa des journées tranquilles, des balades, des bains chauds, des soirées dans les peñas à apprendre la salsa. Dans le fil de la conversation, elle glissa une phrase qui se voulait anodine. « Vous n'avez jamais eu envie de partir, de Baños ?» La table s'était remplie, Dolores se rapprocha.
« Pour aller où, Marina ?»«
Je ne sais pas, dans un pays où la vie serait plus facile. »«
Et comment tu peux en être sûre ? Tellement y ont cru par ici. Et puis, ils se sont endettés à vie sur plusieurs générations. C'est tout ce qu'ils y ont gagné. »«
Je sais, la faute au prêteur sur gage. »
Oui, c'est Chulqueros qui leur chante l'air du bel exil. Ces porcs de Chulqueros.
Elle s'approcha au plus près que lui permettait son embonpoint.
Toi qui as voyagé, Marina, explique-moi cette envie qu'ils ont tous d'aller voir ailleurs si la vie est meilleure. Explique-moi pourquoi les Indiens de l'Oriente sont prêts à vendre leurs parcelles de forêt pour s'installer à Puyo, simplement parce qu'il y a des filles dans les bars. Et pourquoi à Baños les épouses poussent-elles leurs maris à s'installer à Quito pour vivre comme les femmes de là-bas, shopping et coiffeur quand ça leur chante? Pourquoi les campesinos de la Sierra sont prêts à échanger leurs champs de haricots et leurs lamas contre un simple boulot de pêcheur dans un petit port du côté d'Esmeraldas? Et les jeunes de la côte de Guayaquil qui s'épuisent à sourire aux Américaines en bikini? Des fois qu'elles les ramèneraient dans leur bagage à Miami. Tu trouves ça normal, toi? C'est ça l'avenir de l'Équateur? J'arrive!
Cria-t-elle vers son homme débordé par la clientèle. Lucia parvint à glisser. Je veux dire partir quand on n'a plus rien, quand sa famille crève de faim, partir pour survivre et pour peu qu'on les aide, je...
Qu'est-ce que tu connais à tout ça? Une fois parti, que tu sois pauvre ou que tu sois riche, tu fais quoi de tes nuits? Je vais te le dire, tu te mets à rêver au pays que tu as quitté. Ceux que tu as laissés te manquent à en mourir. Et même si tu as quelques dollars de plus en poche, tu crèves pareil, à petit feu, mais loin des tiens.
Elle était déjà à l'autre bout de la salle, à prendre des commandes, chassant les mouches et sa colère à grands coups de torchon. Lucia repoussa son assiette. Un couple de campesinos descendus au marché vendre leur maïs s'installèrent sur le banc d'en face avec leurs deux enfants. La femme et la fille, même châle rose, même chapeau de feutre perché haut sur la tête, la détaillée entre deux bouchées. Avaient-ils un jour imaginé quitter leur village? L'homme aux mains crevassées qui découpait des lamelles de poulet dans l'assiette de son petit garçon s'était-il dit un beau matin « Maintenant ça suffit. Moi aussi je veux tenter ma chance pour le Guatemala, le Mexique, les États-Unis. » Dolores, qui passait entre les tables avec son visage des mauvais jours, remplit à grands coups de louche leur bol de riz.
« Cadeau de la maison !»
dit-elle d'un ton bourru. Et à Lucia,
« Tu vois, je les aide à rester, ceux-là. »
Elle se leva, essaya de tirer un sourire à la fillette, gagna la porte.
Est-ce qu'on peut évoquer les raisons pour lesquelles vous avez sélectionné cet extrait?
Parce qu'il campe la problématique de ce livre-là, qui est l'exil, et l'abus qui est fait de ce besoin de partir par des passeurs qui se font grassement payer. Et toute la problématique qu'on va rencontrer va découler de ça.
Linette, hein, toujours pour le grand exil.
L'air devenait irrespirable. Le ventilateur brassait une ouate grasse. Lucia ramassa son carnet et, avant de refermer son sac, tendit un couteau à Zelmo. Manche de corne bien adaptée à la paume de la main, lame unique fortement incurvée en son milieu. Elle l'avait trouvé au pied de la butte qui surplombait le hangar. Il n'était pas à lui, elle s'en étonna, puis le rangea. Toujours cette chaleur étouffante vibrant dans les tympans, et soudain, le grondement sourd d'un troupeau de bœufs dévalant l'avenue principale. Le sol tremblait, le plancher se dérobait sous leurs pieds, les bancs tanguaient. Zelmo la tira par le bras. « Il faut sortir, il faut sortir !» Les clients se regardaient incrédules, cramponnés aux tables où glissaient les assiettes. Les deux enseignes de marque de bière se décrochèrent du mur, des verres éclatèrent sur le carrelage. Les lampes s'éteignirent. Des cris, un début de panique. Dolores rattrapa Zelmo qui soutenait Lucia. « T'en fais pas, Marina, c'est ce vieux Tungurahua. Il crachote, il se retourne sur sa couche, il va se calmer. » La lumière clignota, revint, le grondement s'éloigna. Les patrons poussèrent la musique à fond. Dans les rues noires de monde, les voitures étaient à l'arrêt, klaxon bloqué. Tous les amplis disponibles dans la ville crachaient leurs décibels à la face du Tungurahua. On ne s'entendait plus, tout le monde parlait à tout le monde. La terre avait tremblé, des vitrines s'étaient fendues, il faudrait relancer l'horloge de la mairie au balancier trop sensible, replacer quelques plaques d'égout, l'eau des robinets resterait jaune avec une forte odeur d'œuf pourri jusqu'au lendemain. Ça tombait bien, l'heure était aux beuveries. Au stand d'alcool de canne à sucre, on faisait la queue avec bouteilles et gobelets, et devant le parvis de la basilique, on pouvait téter directement au tuyau de caoutchouc d'un jerrycan d'aguardiente hissé sur le capot d'une camionnette, un $0.50 les trois gorgées. Aux menaces du volcan, on répondait par la fête. Surtout ne pas revivre les sombres jours de l'évacuation. La terre tremblait. La belle affaire. Qu'est-ce qui était stable dans ce pays ? À chaque début d'avril, les sentiers de la Sierra s'écroulaient. Une année sur deux, les pluies torrentielles d'El Niño emportaient les villages. Les derniers rails du ferrocarril transandino rouillaient au fond des rivières en crue. Les présidents valsaient comme des pions sur l'échiquier politique. L'arrivée du dollar avait précipité la moitié de la population sur la paille. Alors, quand le Tungurahua se contentait de faire tomber des cheminées et de fendre des vitrines, mieux valait en rire et se réchauffer épaule contre épaule, haleine contre haleine.
Merci Linette.
Я жулика люблю.
Tu veux nous expliquer pourquoi tu l'as sélectionné, celui-ci, cet extrait-là ?
On l'a sélectionné ensemble, mais je voudrais dire, ce qui me touche dans ces livres, c'est que il y a beaucoup de noirceur, de violence, de catastrophe, et en même temps, il y a de la lumière et de la tendresse qui ressort encore plus. Et là, dans ce passage, c'est bon, la catastrophe du volcan que chacun minimise ou zappe en faisant la fête. Plus ça va mal et plus il faut vivre, faire la fête.
Il faut compenser. Mais merci Linette en tout cas.
Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. Нет, Коля, жулик спит, а мое сердце так болит. Мама, я жулика люблю.
Toujours le grand exil, Christiane.
А я буду продавать. Мама, я жулика люблю. Где блатные, там я, все блатные, дол, моя мама, я жулика люблю.
Quand Yolanda entendit le 4x4 tourner au bas du village, elle finissait d'étendre son linge sur un alignement de parpaings exposé au soleil. Ses deux jeunes frères à l'école, sa mère partie remuer la terre des terrasses à maïs, elle était seule à garder la maison aux tuiles noircies, un bien grand mot pour la pièce unique encombrée de deux lits, un pour les parents, un pour les enfants, d'une antique machine à coudre, d'une étagère murale croulant sous deux petits sacs de riz et de farine, une bouteille d'huile, un tas d'habits, deux peluches roses et une radio à pile. La voiture rugissait, patinait dans les lacets. Elle souleva sa robe, trempa sa main savonnée dans une cuvette, nettoya rapidement ses cuisses, se sécha à un bout de tissu qu'elle venait de laver. Don Rodrigo aimait la lécher et plonger ses lèvres dans son sexe. Elle arrangea sa tresse dans la glace suspendue au-dessus de la cuvette. Se trouva belle. Tout juste 18 ans, fine, mestizza d'une lointaine lignée italienne, des yeux noisettes, atout majeur parmi les serranas au regard noir, des seins hauts que sa veste de laine taillée dans une couverture verte ne parvenait pas à cacher. Le moteur s'était tu. La voiture était garée comme d'habitude dans le passage de la bergerie depuis longtemps écroulée. Yolanda, chaussures à la main, sauta sur le sentier. 5 minutes pour chasser les images de son père debout sur le marchepied du bus l'amenant vers le Chulquero de Baños, qui lui prêterait les $5,000 exigés par le passeur. 4 minutes pour oublier les coups frappés à la porte en pleine nuit et le visage gris de l'homme venu leur dire que le corps de son père, abattu à la frontière mexicaine, était détenu par la police de Tijuana qui attendait un chèque pour le rapatrier. 3 minutes pour rejeter dans l'ombre les mains du Chulquero qui se saisissait de la reconnaissance de dette, lui donnant la propriété de la maison et des maigres terres cultivables. 2 minutes pour effacer la douleur de la première fois avec l'homme massif amené par l'ami de sa mère, femme de service à la hacienda. 1 minute pour se persuader qu'elle avait de la chance d'avoir trouvé un homme qui ne la battait pas et lui laissait plus de dollars qu'elle ne pourrait jamais en gagner en travaillant, s'il y avait du travail. Plus qu'une poignée de secondes pour accepter l'idée de s'allonger à l'arrière du Toyota, de fermer les yeux quand les dents de Don Rodrigo mordiraient ses seins avant qu'il ne l'écrase en criant. 10 secondes avant d'arriver au passage de la bergerie, assez pour rêver à la Vierge à la quenouille dont l'ami de sa mère disait qu'elle était si belle que ceux qui avaient eu la chance de l'apercevoir, ne serait-ce qu'une fois dans leur vie, étaient protégés pour toujours des bêtes fauves.
Déjà, merci à toutes les trois pour l'exercice pas évident que vous venez de nous offrir. Je vais revenir un petit peu au fonctionnement général. Bon, voilà, c'est la première expérience en soi hein, qu'on met en place entre Air d'Ivoi et Trajet Spectacle. Donc déjà, pour comprendre un petit peu le fonctionnement, comment sélectionnez-vous les auteurs que vous mettez en avant et que vous accueillez? Comment sélectionnez-vous les livres que vous allez citer lors des lectures publiques? Et bah, pour le coup, les extraits, on a bien compris que c'était par affinité. Si j'ai bien suivi le truc.
On essaie de trouver des passages qui à la fois relatent l'histoire du livre, un petit peu quand même, sans en dévoiler non plus ni la fin, ni le contenu global, j'allais dire. Et puis après, on essaie aussi de trouver à l'intérieur, de chercher aussi les différentes écritures. Voilà. Et chez Frank Pavlov, ça n'a pas été facile parce qu'il a une écriture particulière.
Les différents styles d'écriture, tu veux dire quel type d'écriture?
Bah là, on a essayé de trouver un passage dialogué. Voilà, on essaie un peu de jongler avec le livre sans en dévoiler à chaque fois la fin, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Et voilà, et après, on les lit à voix haute, on les travaille. C'est une des parties, je dirais, qui nous prend le plus de temps parce que chacun a coché ses passages qu'il aime. Et après, voilà, on dit non, là, on se redit, là, c'est les mêmes choses, on raconte la même chose. Donc voilà, le plus dur après, c'est de sélectionner, effectivement.
Et comment le Grand Exil a-t-il été sélectionné? Pourquoi le Grand Exil?
Ah ben là, nous on s'est saisi de ces derniers romans. Voilà. Donc voilà, on aurait pu remonter plus loin en arrière si on avait eu plus de temps, par exemple. Mais déjà, 2 romans, on a déjà passé un certain temps. Voilà, on n'a pas eu le temps d'aller plus loin, quoi.
On en a lu beaucoup plus, hein. Ouais. Mais voilà, avec deux rencontres, on est obligé de sélectionner. Et en général, les auteurs aiment bien quand même parler de leur dernier bébé.
De leurs actus, ouais. Bien sûr. Ouais. On est d'accord. Qu'est-ce que vous avez découvert dans le Grand Exil pour Christiane, Linette et Delphine? Qu'est-ce qui vous a particulièrement parlé? Donc visiblement, hein, le fait que l'exil soit évoqué. Certaines parlaient aussi d'un côté sombre et lugubre, bien que compensé par des éléments et des événements plus positifs.
C'est pas compensé, c'est comme additionné. C'est-à-dire les deux coexistent et les uns mettent en lumière les autres. Enfin, c'est surtout la lumière qui ressort parce qu'elle est rare finalement et elle ressort comme un diamant. Dans la sombritude, si je peux dire. dans la noirceur.
Oui, ce livre, il pose la question de combien de formes l'exil peut-il se revêtir, quoi. Et ça, c'est important. Parce qu'il n'y a pas que l'exil, il n'y a pas que partir. Il y a une phrase absolument merveilleuse au début du livre qui parle, il parle de son personnage principal, Chaka. Parce qu'il faut savoir que c'est Chaka pour le grand exil, Kolia pour l'homme à la carrure d'ours et Svara pour le pont de Ran Mozitar. Et tu l'as par là, la phrase, oui. Sur son corps.
Son pays, c'était son corps, où qu'il se trouve.
C'est beau.
Voilà. Donc, y a ceux qui vont passer les frontières, il y a ceux qui vont rester, il y a ceux qui sont en exil d'eux-mêmes. Y a, voilà. De combien de formes l'exil peut-il se revêtir, quoi.
Et finalement, peu importe le lieu de chute, on est tous à sa place, on est tous dans son pays, puisque tout simplement, nous habitons notre propre corps.
Ouais. Puis, il y a aussi la question de l'exil. Dans le grand exil, par exemple, est-ce qu'il faut partir ou pas partir ? Et il y a aussi un thème très important, c'est que dans ces situations de catastrophe, il y en a qui résistent. Et il y a une très belle phrase qu'on a trouvée, sur un site, je crois, c'est « Toutes les résistances ne conduisent pas à la victoire, mais toutes mènent à la dignité. » Et ça, c'est magnifique. Il y a des personnages qui résistent, qui perdent.
C'est une citation de Franck Pavlov, et je trouve que ça résume tout à fait son travail, moi, en plus.
Eh ben voilà. Ouais. Allez, pour cette première partie, en tout cas, pour le Grand Exil, ce sera fini. Ben, je vous invite, chers auditeurs, à vous procurer cet exemplaire, donc disponible aux éditions Albin Michel. Allez, ben, la suite pour l'homme à la carrure d'ours, autant pour moi, avec Patrick comme premier lecteur. Alors, quand tu veux, Patrick.
On pourrait peut-être juste dire qu'il nous fait passer quand même de l'Équateur avec le Grand Exil au grand froid du Grand Nord. Hein. Voilà, on parlait tout à l'heure de...
Ces deux ambiances complètement à l'opposé l'une de l'autre. On est sur les flancs d'une Tungurahua, donc le volcan de l'Équateur, donc avec, pour rappeler le contexte, le Grand Exil. Et là, on se retrouve aux confins de l'Arctique, du côté de la Laponie russe, donc dans un endroit absolument désolé. Et d'autant plus désolé que c'est une zone interdite qui a servi de lieu de stockage de déchets nucléaires. Donc, et qui depuis l'histoire de l'homme à la carrure d'ours, c'est l'histoire de cette zone interdite, donc au bord de l'Arctique.
Donc voilà, ben Franck Pavlov nous fait voyager. Allez, la suite du voyage tout de suite.
Personne au dehors. À midi, les repas se prennent autour des foyers. Ne pas affronter la plaine, le ventre creux, est une nécessité vitale. Quelle que soit la saison, tout peut arriver. Dans un blizzard de juin, une femme des Isbas s'est égarée et noyée dans les marais. Un gars des containers qui coupait des ajoncs en chemisette n'a pas survécu à une nuit de brouillard d'août où le thermomètre a chuté brusquement au-dessous de moins 10 degrés. C'est au comptoir qu'on raconte ces histoires. Quand il s'installe au bar, les voix baissent d'un ton, mais ça ne l'empêche pas d'entendre les peurs qui se cachent derrière les rires épais. Il devine le désespoir et les craintes qui entravent les reclus, celles qui ruminent et taisent, comme si la méfiance était une valeur fondamentale de la zone. Il sent leur renoncement dans leur regard alourdi, dans l'air poisseux, dans le trop-plein de vacarme. Plus l'alcool coule, plus ils oublient sa présence. Chacun bégaye son texte, le décor est figé, les actes de la pièce se rejouent en boucle. Les orthodoxes s'accrochent à leur sainte patronne, les dépeceurs de citernes à leur amas de fourrure, les perdus de chaumières, de gronika, à leurs provisions qu'ils entassent depuis 20 ans, ceux du hameau de Voritvinsk à leurs traîneaux et engins à moteur sans essence, les illuminés des hangars, des blocs, à leur arsenal d'armes sans munitions, tous ces plans fumeux sombres dans les vapeurs d'ersatz de seigle qui fermentent dans un tonneau près de l'époile. Des nuits qui s'enchaînent sans jour, des journées sans lumière. Alors, décelant sur leur front ce dont ils ne se savent pas porteurs, la marque indélébile des barbelés dans lesquels on les a enfermés mais auxquels ils s'accrochent, il enfile sa pelisse, son bonnet, ses moufles et repart dans la solitude de la toundra, se rappelant comment avec Touri, Il imprimait un T de feu au flanc des rennes maîtrisé entre l'étau et de leurs cuisses, du temps où il croyait que ce n'étaient que des bêtes, des lapons, que l'on marquait au fer après les avoir castrés.
Ce qui m'épate, hein, c'est le souci du détail. On y est. On y est et ça demande effectivement un certain vécu, ou en tout cas, il a accès à une mémoire universelle à laquelle je n'ai pas accès. Oui. Mais c'est assez épatant. Ouais.
Bah, ce contexte, en fait, c'est que, comme je le disais, c'est une zone et une ville qui a servi de lieu industriel et de stockage de déchets nucléaires, qui a été tout d'un coup décrétée zone interdite, la ville rasée. Et il se trouve qu'un certain nombre de gens sont restés coincés à l'intérieur et le sont depuis gardés par des gardes qui tirent de loin sur quiconque traverserait la frontière de cette zone. Et donc les gens se débrouillent comme ils peuvent, donc en se repliant par leur communauté et en caricaturant une vie communautaire telle qu'on pourrait l'imaginer, du fait des conditions extrêmes qu'ils vivent et de cette prison à ciel ouvert dans laquelle ils sont enfermés.
Alors autant le grand exil, hein, on évoquait l'exil, là pour le coup c'est comment rester c'est quasiment l'inverse, là, comment rester pour se protéger, c'est quoi le...
Rester ou partir,
oui. Là encore, hein.
Okay. Restez ou partir toujours.
Ils sont prisonniers encore une fois, ouais, ils sont prisonniers de cette zone.
Cette zone radioactive sans doute.
Et qui est une zone bien sûr contaminée.
Ouais.
Donc la question c'est que rester, partir, mais finalement ces gens restent et ne cherchent pas à partir, enfin, ou remettent leur projet de départ.
C'est pour ça que j'évoquais vraiment le fait de rester
à l'infini.
Ouais.
Pour des raisons toujours renouvelées, enfin, il y a toujours des bonnes raisons, mais en fait, n'essaye même pas de s'échapper finalement. Donc d'où la question, qu'est-ce qui fait rester, qu'est-ce qui fait partir, qu'est-ce qui se produit finalement dans l'humain, dans des cas extrêmes comme ceci, où finalement on retourne vers soi un enfermement qui est imposé de l'extérieur, jusqu'à s'empêcher de bouger et de fuir même
de réagir.
Merci Patrick. Delphine, pour toi, hein, l'homme à la carrure d'ours, et ce sera quand tu veux.
Il continue vers le nord où la lumière horizontale glisse sur une étendue de marécage si dure, si lisse, qu'aucun lichen ne s'y accroche. Il s'oriente au soleil, tantôt les yeux vers le ciel, tantôt attentif à l'angle que fait son ombre sur le sol. Une heure de marche, rapide, sa trace est rectiligne, il sait où il va, il ne se retourne pas, qui pourrait le suivre au-delà de la zone? Il ne pense ni aux gardes, ni aux coups de feu, il approche. Sur sa droite, des lignes sombres strient le miroir des marais, il fait halte là où la neige devient sale, comme si une haleine chargée de houille remontait d'une cicatrice des profondeurs. Il sort de sa besace la plaquette gravée des oies aux ailes déployées et des statues aux corps nus à peine ébauchés, nantis d'une grosse tête expressive, yeux rieurs ou d'effroi, bouche épaisse. Agenouillé, il caresse les objets du bout des doigts, s'attarde sur une figurine aux traits lunaires, puis d'un geste ferme, l'enfonce entre les commissures mâchées de la faille, comme s'il donnait la béquée aux entrailles de la terre. Des gouttelettes tremblent le long des rides qui creusent son visage, des ailes du nez au bord de ses lèvres. Paupières mi-closes, il fixe le disque rouge du soleil de froidure et dans son silence intérieur prononce des mots de braise pour le grand enfant disparu au fond de la terre. Il se redresse, se ressaisit, d'une pioche laissée sur place, s'éloigne à pas comptés d'une cinquantaine de mètres sur sa gauche. L'outil renacle, rebondit, écorche la glace, trouve une veine brune où le fer se loge. Les coups précis insistent. L'appel prend le relais. Peu à peu, apparaît la forme courbe d'une solive jaunâtre. Un dernier effort de levier et l'ivoire millénaire d'une défense de mammouth émerge de la tourbe. Il est le seul à connaître la cache. Même avant la fermeture des mines, on ne traversait pas les marais de ce côté-là. Trop de légendes sur la traîtrise des Stalos, être mi-humain, mi-troll, trop de récits de chasseurs engloutis au dégel. En hiver, les ouvriers du Trest contournaient en se signant l'étendue de glace. Lui aime ces terres perdues où prend naissance la vie arctique. Dans un magma de mousse, d'algues, de lentilles d'eau, d'azote et de méthane qui bouillonnent et éructent, des myriades de moustiques, de moucherons, d'insectes éclosent, grouillent, amorcent la chaîne de vie de tout ce qui survit au-delà du 74e parallèle. Un matin d'été de ces 10 ans, où depuis 2 semaines la température dépassait les 15 degrés sans descendre, la nuit au-dessous de zéro, du jamais vu de mémoire de Lapon, avec son grand-oncle par alliance qui l'accompagnait à la pêche aux grenouilles, ils heurtèrent une pointe d'ivoire qui dépassait du sol. Les marais asséchés rejetaient des défenses de mammouth comme autant d'épines plantées dans leur chair. Toury, qui en connaissait la valeur, lui fit jurer de garder le secret et de ne jamais dérober à la terre de ses ancêtres le trésor d'ivoire qui leur appartenait. Quelques années plus tard, il fut emporté par le mal avec ceux de son clan qui se nourrissaient exclusivement de phoques et de rennes. Quand le Trust ferma les mines, rasa Vulcor, interdit la pêche et l'accès aux fjords, fit abattre les troupeaux contaminés malgré l'effroyable disette qui s'ensuivit, Kolia tint son serment. L'ivoire, enfoui depuis 10 000 ans, qui aurait pu lui permettre d'acheter n'importe quel passe-droit pour quitter la plaine, resta dans sa gangue de limon congelé en direction du nord-nord-ouest à exactement 4033 enjambées du site de l'atelier, comme le lui avait fait compter Toury. De la pièce conique qu'il scie, un tronçon à la teinte d'os rongé, épais comme son avant-bras, Kolia tire des figurines lisses et des plaquettes gravées qu'il rend au marais. Promesse tenue.
Donc, prochaine lectrice, Daniel, c'est à toi.
Fixée à l'établi face à la fenêtre ouverte, une écuelle percée montée sur une tige laisse s'écouler un filet d'eau sur la scie. Découper une lamelle plate dans une défense de mammouth, avec une lame édentée 100 fois détordue et aiguisée, demande un sérieux savoir-faire. Penchée sur le cœur d'ivoire, Kolia affine l'entaille mouillée, laisse refroidir la lame, reprend son travail avec le respect dû à une pièce qui a dormi 10 siècles dans les entrailles de la toundra. Le plancher de l'atelier est jonché de copeaux, de ferrailles et de bouts de cuir, mais les outils sont rangés méticuleusement sur un support d'angle. Au fil des années, il s'est forgé une panoplie de précieux burins. Grattoirs, limes, rugines, pointes d'acier, gouges, ciseaux, tirés de fûts déchiquetés, de cornières métalliques, d'éclats de fonte, de barres d'acier ramenées des docks irradiés de Vulcor. Il souffle sur la poussière de l'établi, y dépose la plaquette d'ivoire large comme 2 doigts. La lame a rayé la surface. Il choisit la plus fine des rugines dont le bord biseauté tranchera les bavures, approche son visage de la pièce, poursuit son travail d'orfèvre. N'importe quel dosimètre bien étalonné révélerait que ces outils diffusent une dose de radioactivité suffisante pour altérer les barrières immunologiques de n'importe quel artisan soviétique, scandinave, nordique ou lapon. À mesure qu'il donne vie à la matière brute, Kolia s'imprègne de mort lente. Mais tant que naîtront de ses doigts des figurines au visage lunaire, des vols de lagopèdes, des rennes et des ours, il sera armé pour affronter les attaques du mal. Faire sauter sous l'acier acéré les nodules qui boursouflent l'ivoire est l'antidote qui irradique les grosseurs doublant ses ganglions. L'équilibre constant entre ce qui naît et ce qui tue est la marque du Grand Nord, disait Toury. Sur le chemin étroit où il va, Colia, l'équilibriste, ajuste les charges pour continuer à aller de l'avant. La porte est entrebâillée. La lumière rasante de ces derniers jours de juillet glisse sur les plis de sa blouse, accroche les bandes de tissu rouge vif de son col et de son plastron brodé, vêtements de fête qu'il revêt au début et à la fin de l'été, quand il se débarrasse pour les laver de ses habits de tous les jours. Dehors, sur une corde, pantalons de peau et chemise de toile rapiécée sèchent au vent. La poussière d'ivoire éclaircit ses cheveux détachés sur ses épaules, les ombres sont transparentes. Seuls les coups de maillet, comme un bec de passereau sur un tronc de bouleau, et l'horloge du goutte-à-goutte qui tombe de la coupelle accompagnent le silence. La plaine s'est vidée de ses habitants pour leur journée de deuil qui ne les concerne pas. Ceux de son clan reposent au pied d'une saillie rocheuse sur la route de la migration des troupeaux, et Saami ne s'est absenté que pour quelques années. Tout à l'heure, sur le chemin de l'enclos aux fleurs, de pavots et de lupins, il lui dira la douceur des fins d'après-midi à l'atelier.
Merci Daniel. Alors toi qui ne t'es pas encore exprimé, pourquoi tu l'as sélectionné cet extrait ?
Eh bien je trouve que dans cet extrait, on ressent la force du dénommé Colia et tout ce qu'il a aussi en lui de vouloir conserver quelque chose du passé.
Merci Daniel. Ouais. Allez, en avant pour le dernier extrait avec Christiane.
Une journée, une nuit, il est bientôt midi ce matin et Liuba dort toujours, recroquevillé sur le côté, respirant calmement. Dans un poêlon, des dés de viande séchée grésillent. Misha repousse l'ustensile au bord du fourneau, suspend son geste, tend l'oreille vers la chambre. Ce n'est rien, des tôles qui battent sur le toit. Elle jette un coup d'œil appuyé à la pièce, comme si la couchette, le tabouret qui disparaît sous des découpes de tissu, la tablette devant la fenêtre au rideau de givre, détenaient le secret de la nuit de Liuba. Sur l'étagère qui court autour du mur, des trésors d'enfants, une série de coupelles en joncs tressés, des colliers de baies, des fleurs séchées, un coffret de céramique bleue troqué au comptoir. À la tête du lit, des affaires de femmes, un peigne en ivoire, un miroir doré, des bracelets de cuivre, des onguents parfumés aux fleurs de pyrrole, des serviettes de toile fine. Pas d'image sainte, pas de photos, pas de dessins. Le lendemain de ses 18 ans, Liuba est allé les brûler à l'atelier. Seule intrusion dans l'espace aux objets inertes, la fourrure qui a glissé et s'étale au pied de la couchette comme une bête de compagnie, bien vivante. Elle chuchote du bout des lèvres, un loup descendu des montagnes qui veille sa maîtresse. 9 mots qu'elle formule à nouveau. 9, chiffre sacré. Le 9 décembre, conception de la très sainte mère de Dieu, les prières du 9e jour pour l'âme des défunts, les 9 ordres angéliques. 9 mots pour éloigner les mauvais esprits de la fourrure. D'où vient-elle ? Donnée par Colia comme les bottes rouges ? Peu probable. Dans son clan, on tannait les peaux de renards et d'ours, jamais de loups, ennemis de troupeaux. Les lapons des montagnes agençaient ses capes, pas ceux de la plaine. Ils les descendaient au magasin du Trust, où les Ukrainiens et les marins norvégiens les achetaient par lot de 3 ou 4. Elle dégage le tabouret, s'installe face à la jeune femme qui soupire, gémit, se rendort. Ratatinée sous ses châles, elle scrute le front lisse, les lèvres secrètes. A-t-elle survécu blottie dans les taillis, enfouie sous des planches, cachée dans une étable ? Le jour où elle a cessé de parler, un voile s'est plaqué sur son visage, éteignant son regard.
Elles furent proches pourtant, comme une mère et sa fille, complices des heures difficiles. Elle se rappelle Liuba toute petite, qui tousse et étouffe, accrochée à son épaule pendant sa mauvaise coqueluche. Liuba tremblant dans ses bras, empoisonnée à la locoïne des fleurs de lupin. Liuba clavicule déboîtée en courant après une famille lemming, qui pleure entre ses genoux alors qu'elle réduit la luxation. Liuba, au cœur chagrin d'adolescente, secouée de sanglots, sa main dans la sienne. Et plus tard, Liuba qui l'aide quand les rhumatismes commencent à la clouer sur sa chaise. Liuba qui pose des ventouses dans le creux de sa nuque, frictionne ses pieds gelés. Les souvenirs défilent. Elle répète avec ferveur le nom de Liuba, 9 fois. Mais toutes les complies, matines et laudes, n'y changeraient rien. La fugitive, dont elle capte l'haleine, garde son mystère. Dans l'album aux images, elle a pris soin d'éliminer celle où Liuba reçoit les hommes dans sa chambre. Elle ne les rejette pas non plus. Les rencontres, comme les nomme le père Basile, si amorales qu'elles puissent paraître, sont essentielles pour venir à bout de la malédiction qui rend les femmes stériles. Même si les injonctions du pop sont aussi barbares que vaines, les remettre en cause est aussi impensable que de renier les doctrines de sa religion. Il en va ainsi pour les autres communautés, toutes organisées autour de convictions non négociables. Aucun reclus ne s'aventurerait à contredire les valeurs de son groupe. Vénérer les saints ou entasser des pots au fond des citernes, bricoler des véhicules sans essence en se terrant dans des containers, amasser du gibier qui pourrit chaque été dans les granges, c'est s'armer de certitude pour un jour abattre les miradors et renverser les chevaux de frise. Les obsessions, les obstinations collectives, transmuées en dogmes, ne laissent pas de place aux nuances du doute. La bise de Scandinavie se glisse sous la porte, agite la fourrure. Misha se redresse, inquiète comme si un fantôme venait d'entrer sur les talons du vent. Elle s'active autour du poêle, oppressée, craint qu'un orage chargé de pollen des pins de Finlande, comme il en éclate en mai, emporte la toiture. Elle se signe. Le poêlon continue sa chanson. Tout est calme. Elle a tort de se mettre dans des états pareils. L'épuisement des heures passées à prier, sûrement. Quand elle se retourne, dans la découpe de la porte de la chambre, dressée sur ses pattes arrière, un loup la toise immense. Silhouette blanche contre ombre de chiffon noir, un face-à-face monstrueux. Elle pousse un cri. Liuba, couverte de la cape, émerge de 30 heures de sommeil, éclairs verts au fond des yeux. Elle ne comprend pas l'effroi de la vieille dont la frayeur redouble quand elle demande d'une voix arrachée au silence « Est-ce qu'il y a du lait de reine ? J'ai soif. » Une voix sans contrainte, sans influence, une voix libérée qui n'appartient qu'à la jeune bouche qui prononce ces mots. Le sang de Misha se fige. La dépouille du loup a remplacé la défroque de la soumission. La femme ne se taira plus. Bientôt, elle tournera le dos à la plaine et lui demandera des comptes.
Christiane.
Ce que je peux dire, c'est que dans chacun des livres qu'on a lus, on trouve toujours une des problématiques de notre époque. Et là, c'est celle-ci est puissante. Et le personnage de Liuba est un des personnages qui va résister. Et c'est vraiment une lueur d'espoir, de même que Kolia, d'ailleurs, dans ce livre de soumission. On aborde la problématique qu'il n'y a plus d'enfants qui naissent dans cette collectivité.
Et où est l'avenir alors ?
et ça éclaire un petit peu ce qui s'est passé pour Gyuba.
Tout à fait. Je voulais vous remercier tous les cinq pour ces extraits que vous nous avez offerts. Donc le vendredi 25 à la bibliothèque de Châtillon en Diwa, à partir de 18h, Franck Pavlov sera là pour évoquer son écriture et son univers. Le samedi 26 octobre, ce sera à Die à partir de 16h à la médiathèque Diwa-Vercors, donc où vous aurez le privilège d'apprécier le groupe de lecteurs et lectrices de Trajet Spectacle. Renseignements au 04 75 22 22 32, 04 75 22 22 32, ou bien un numéro de Trajet Spectacle peut-être à transmettre.
04 75 22 05 75. Et au passage, effectivement, ces rencontres sont permises grâce à un partenariat avec la médiathèque d'Iwa-Vercors et la bibliothèque de Châtillon.
Qu'on salue au passage. Merci à tous pour cette, cet essai.
Merci.
Et à très bientôt.
Merci.
Thank you.